Alors, je ne sais pas ce que c'est, je lis le Jinim. Moi, j'ai un regard assez, je dirais, neutre, pas exalté en tout cas par rapport à tout ce que l'on peut entendre ou voir parfois sur certaines chaînes d'information.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, cette émission dont le cahier des charges, apprendre en s'amusant, va être mis à mal cet après-midi, sachant que les possibilités d'amusement sont limitées lorsqu'on se penche sur un mouvement djihadiste. Or, c'est notre thème cet après-midi, comprendre ce qui se cache derrière le mouvement JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui sévit actuellement au Mali et notamment à Bamako, où un blocus a été mis en place. Pour expliquer comment ce mouvement affilié à Al-Qaïda est né il y a une dizaine d'années, on a d'abord pensé à convoquer notre expert Afrique, Cyril Lacarrière. Cyril, qui fut au mi-temps des années 2000 le bras droit de Youssou N'Dour à la tête de la radio Futur Média, qui émettait depuis Dakar. Hélas, après une rapide conversation avec lui visant à tester ses connaissances, j'ai découvert que ce qu'il savait en matière de géopolitique africaine se limitait en réalité à quelques vagues souvenirs du film Laurence d'Arabie et le refrain de la chanson Les Dimanches à Bamako d'Amadou et Mariam. Devant ma déception, il me confessera que cette année-là, à Dakar, il avait passé plus de temps à écrire des messages haineux à Geneviève Tapineau, sa fiancée restée à Paris, qui le ghostait depuis un cybercafé où on l'appelait le Toubab triste. Qu'à s'intéresser à la vie politique du continent africain. Un foutu gâchis quand on sait qu'en plus Geneviève n'était pas vraiment sa fiancée, mais juste une fille qu'il avait smaquée une fois en soirée. Bref, l'incompétence de Cyril est finalement un mal pour un bien, car ça nous a obligés à trouver une invitée qui, elle, s'y connaît vraiment en géopolitique africaine. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Vous saviez tout ce que j'ai fait à Dakar.
Zoom Zoom Zen.
On ne peut pas dire ces choses-là à cette heure-là. Si
tout ce qui se passe à Dakar reste à Dakar.
Mais en tout cas, la radio Futur Média a périclité après votre départ ou...
Je ne crois pas qu'elle survive juste grâce à moi. Je crois qu'elle fonctionne encore, mais je ne sais pas. Parce qu'après, il est devenu ministre de la Culture. Et je ne sais pas ce qu'il y a de ce qui.
Vous n'avez pas gardé le lien avec Youssou?
Non.
Pas du tout.
Non.
C'est dommage. Bonjour en tout cas, Niagale Bagayoko.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur Inter avec nous cet après-midi. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la défense en Afrique et des mécanismes africains de gestion des conflits. Vous avez dirigé le programme Maintien et consolidation de la paix pour l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous êtes actuellement présidente de l'African Security Sector Network. Alors de quoi s'agit-il déjà ?
Il s'agit d'un think tank qui travaille sur les questions de paix et de sécurité sur le continent africain.
Donc beaucoup de boulot, effectivement, surtout en ce moment.
Oui, en Afrique comme ailleurs. Hein, ce sont malheureusement des questions qui sont toujours et sans cesse davantage d'actualité.
Alors, qu'est-ce que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM ? Quelles sont ses ambitions ? Va-t-il conquérir le pouvoir au Mali ? Quelles menaces représente-t-il ? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui, de l'Afrique, ne connaissent que le Club Med de Djerba la Douce. Manon Ariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
La musique me fait rire. Bonjour.
Un scrabble dans ma case ?
Bonjour à tous.
Manon, le titre de votre chronique, La pièce jointe, fait mal à Cyril. Il aurait tellement aimé que Geneviève lui envoie une pièce jointe à l'époque, mais non, même pas un poke sur Facebook.
Oh,
bref, dans votre pièce jointe aujourd'hui, Manon.
Un oligarque russe qui a eu plusieurs villes a été cuisinier du Kremlin, chef du groupe militaire privé militaire Wagner, commandant d'une mutinerie. Il a fini mort dans des circonstances assez suspectes, disons-le. Un bon personnage de série, mais là, tout est vrai.
Des circonstances suspectes, les accusations que vous portez sont graves. Hein.
Justice suspecte.
N'est pas avéré. Face à vous, Niagale, il est notre journaliste de terrain. Toujours tout feu, tout flamme, il parle, il fait parler. Et pour faire parler, il reparle encore. Si bien que parfois, oubliant que je suis à l'antenne, je révèle le fond de ma pensée. Vous me fatiguez, Quentin, vous me fatiguez. Et vous fatiguez aussi les passants que vous alpaguez au hasard des rues pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, le JNIM, est-ce qu'il connaissait ?
Bah, puisque je vous fatigue, faisons court, rendez-vous dans la prochaine demi-heure.
Oh là là.
Bien dit, Quentin,
Il boude.
La prochaine demi-heure.
Il boude.
Vers 16h30, le terrorisme islamique n'étant pas le terreau le plus fertile de l'humour, le Zoom Zoom Test vous proposera non pas un pas de côté, mais un bond de côté aujourd'hui, puisque le quiz nous entraînera à la découverte des putschs militaires les plus foireux de l'histoire. Vous verrez que certains coups d'État ont duré encore moins de temps que le Zoom Zoom Zing, ce qui n'est pas peu dire. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Harold Barbet, qui remercie le destin d'être tombé sur le sujet terrorisme, le préf des humoristes. Après 17h, restez avec nous, on décryptera l'actu du jour avec Patrick Timsit, bientôt à l'affiche d'une comédie familiale idéale pour les fêtes, à la poursuite du Père Noël. Mais d'abord, Niagale Bagayoko, zoom donc sur cet acronyme, le JNIM, ce groupe qui bloque actuellement le Mali. La France a recommandé le mois dernier à ses ressortissants de quitter temporellement le pays dès que possible, alors que la capitale Bamako et de nombreuses régions du pays sont peu à peu asphyxiées par le blocus mis en place par les djihadistes. Est-ce qu'on est revenu tout simplement 13 ans en arrière, quand des groupes terroristes menaçaient déjà de faire tomber la capitale du Mali et que ça avait provoqué l'intervention française ?
Alors, pas exactement, mais il y a un certain nombre de dynamiques qui sont effectivement similaires. Ce qui s'était produit tout au long de l'année 2012, hein, en réalité, c'est qu'il y avait eu une prise de possession des villes du nord du Mali par une coalition composée de groupes djihadistes divers, dont certains en provenance d'Algérie, qui s'étaient alliés à des groupes Touareg et Sonrail et arabes autonomistes et qui ont cherché effectivement non pas à prendre la capitale Bamako, ça ce fait n'a jamais été avéré, mais en tout cas à s'ancrer durablement dans les villes qu'ils ont conquises, notamment Tombouctou, Kidal et Gao. Aujourd'hui le scénario est relativement différent, d'abord parce que le JNIM agit seul, parce qu'il est composé aujourd'hui de mouvements beaucoup plus locaux, beaucoup plus ancrés dans l'histoire malienne et non pas importés depuis l'extérieur. Et enfin, parce que le mouvement s'est considérablement étendu et enraciné, non pas seulement au Mali, mais également dans les pays voisins.
On va en reparler, mais très rapidement, être seul, c'est une force ou c'est un handicap pour le JNIM ?
Alors, le JNIM lui-même est composé de plusieurs mouvements qui étaient épars en 2012. Ce qui est facteur de force, selon moi, c'est que ces différents groupes ont choisi de s'allier au sein d'une seule coalition qui est donc ce fameux JNIM, sous la bannière desquels ils interviennent tous, et d'autres se sont également alliés à ce mouvement chapeau, je dirais, de toute cette mouvance qui, il faut le rappeler, c'est important, est affiliée à Al-Qaïda.
Oui, il faut toujours le rappeler. On va voir ce qui se passe avec vous à Bamako en ce moment. De tout bab triste à prince de l'info. C'est sûr, aujourd'hui, dans son deux pièces cuisine de Porto Combo, Geneviève Tapineau s'en veut d'avoir été si sotte et d'avoir repoussé les avances de celui qui a créé une marque si forte, une rubrique si puissante que même en boîte de nuit, aujourd'hui, les jeunes dansent sur...
Mais d'où ça sort ?
Mais c'est qualitatif.
Ça sort de lui, tout simplement, les enfants. Cyril Lacarrière, chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre phénomène. Alors, dites-nous, le JNIM, d'où ça sort ?
Imaginez une bande sahélienne immense, des frontières tracées au doigt mouillé et jamais vraiment acceptées. Un territoire où l'État est parfois une présence abstraite, tant les populations vivent loin des capitales. Un territoire où les armes circulent plus vite que les promesses politiques. C'est dans ce vide que le mouvement...
Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimi.
Merci beaucoup de votre aide. Le JNIM va émerger. L'histoire commence au début des années 2000, quand le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, fruit de la guerre civile algérienne, étend son influence vers le sud. En 2007, il devient Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est comme ça que l'acronyme ACMI fera son apparition dans les médias. Une transformation qui symbolise une bascule géopolitique. Le Sahara devient un espace stratégique. Pendant des années, des émirs locaux s'enracinent dans le nord du Mali, nouent des alliances tribales, développent des économies criminelles et tissent des liens politiques. La véritable naissance du JNIM se joue, elle, au Mali à partir de 2012, commencez à le dire. Coup d'État, effondrement de l'armée, rébellion Touareg, arrivée de groupes djihadistes, intervention française, tout s'entremêle et tout nourrit les groupes terroristes. Et c'est comme ça que Iyad Ag Ghali, une figure Touareg passée du nationalisme au djihadisme en passant par le régime de Kadhafi, unifie en 2017 plusieurs groupes pour créer cette nouvelle entité, le JNIM en français, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe qui, dès son origine, se place sous la bannière d'Al-Qaïda.
Et ce groupe ne va cesser de grandir.
À partir de 2018, malgré l'opération française Barkhane, le JNIM gagne du terrain, se structure, se finance, recrute et s'enracine. Il s'étend aussi vers le Burkina Faso et le Niger et son principal rival, ce n'est pas l'État du Mali, mais une autre organisation, l'État islamique au Grand Sahara, avec lequel les affrontements sont violents. Le JNIM, ce n'est pas un mouvement né d'un claquement de doigts, mais le produit de deux décennies de fractures politiques, territoriales et sociales, et c'est le début de notre histoire.
Merci beaucoup Cyril, et vous êtes habilement passé entre les gouttes des mots compliqués grâce à notre invité Niagale Bagayoko qui est venu à votre secours sur la prononciation du JNIM. Ah non, pour ma part, je ne m'y risquerai pas Cyril. Niagale, cet Iyad Ag Ghali, c'est donc lui le chef aujourd'hui du JNIM ?
Absolument, il s'agit du leader charismatique de ce groupe qui en réunit d'autres, comme je l'indiquais précédemment. C'est un personnage qui a une histoire assez fascinante. D'abord parce qu'il a effectivement fait partie des mouvements rebelles Touareg, mais il a été, on le sait moins, un haut fonctionnaire malien qui a notamment été consul en Arabie Saoudite. saoudite. Et c'est là-bas que, manifestement, il a embrassé une vision beaucoup plus rigoriste de l'islam. Et à son retour, il a fondé son propre mouvement qui s'appelle En Sardine et qui est une des composantes du JNIM. Je terminerai juste en disant que Yad Agali a aussi été l'un des négociateurs de l'État du Mali dans les années 2000 et 2010 pour obtenir la libération des otages occidentaux qui avaient été capturés à l'époque.
Est-ce que c'est lui qui avait lancé l'offensive contre Bamako en 2013 ?
Cette offensive, comme je le disais, elle était composite. Elle était composée de différents mouvements.
Mais il était
à
déjà
la
là.
Fois... Pardon.
Lui, il était déjà
oui,
là.
Oui, il y était dans le cadre du mouvement dont j'ai parlé, En Sardine, qui existe encore, qui fait partie des organisations membres du JNIM. Et en effet, ce groupe En Sardine a participé à cette fameuse offensive de 2012, qui a finalement été stoppée seulement momentanément par l'intervention militaire française.
Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Que se passe-t-il au Mali ? Quel est ce groupe islamiste qui bloque Bamako ? La docteure en sciences politiques et spécialiste de la défense en Afrique, Niagale Bagayoko, est avec nous pour tout comprendre du JNIM, le groupe malien affilié donc à Al-Qaïda qui menace de s'emparer du pouvoir à Bamako. Déjà, il faut peut-être revenir sur la situation au Mali, on ne la connaît pas forcément. Qui dirige le Mali actuellement ?
Alors, actuellement, au Mali, ce sont des militaires qui ont pris la tête de l'État en deux fois. D'abord, à la faveur d'un coup d'État qui s'est produit en 2020, en août 2020, mais qui avait été négocié avec la communauté internationale à travers la mise en place d'un gouvernement de transition composé de civils. Mais dès le printemps 2021, un nouveau coup d'État est intervenu et les militaires de ce groupe qui s'appelle le CNSP, le Comité National pour le Salut du Peuple, ont pris le contrôle de la plupart des leviers de l'État, y compris du Parlement de transition, mais aussi de la plupart des régions et des gouvernorats dans le pays.
Et donc le JNIM veut prendre le pouvoir par la force aussi, il ne réclame pas des élections ou quoi que ce soit ?
Ah non, le JNIM ne réclame pas des élections et d'ailleurs le gouvernement actuellement au pouvoir non plus parce que les partis politiques ont été interdits, l'Assemblée nationale avait été dissoute et donc seulement un parlement de transition a été mis en place. Il y a une très forte restriction des libertés et un très fort rétrécissement de l'espace civique, donc dont on est dans un contexte politique d'ores et déjà autoritaire. Cela dit, il est important de préciser que le JNIM combat le gouvernement actuel, mais a combattu également les civils qui l'ont précédé. Le mouvement est apparu bien avant l'élection du président qui a été renversé par la junte actuellement au pouvoir.
Les Français sont partis en 2022, rapidement supplantés par les mercenaires russes de Wagner. Leur objectif n'était pas justement de limiter la progression des djihadistes ?
L'objectif de la France ou l'objectif des Russes ?
Les deux.
Ben non, parce que justement, les objectifs étaient différents pour les uns et pour les autres. Le mandat explicite, en effet, de l'opération française Serval, d'abord remplacée par l'opération Barkhane, qui n'intervenait pas uniquement sur le territoire du Mali, contrairement à Serval, mais sur l'ensemble des pays de la zone sahélienne, était en effet de combattre et d'éradiquer même le terrorisme. En revanche, il semble que le mandat de la société militaire privée Wagner, qui n'existe plus, qui maintenant a été intégrée au sein du ministère russe de la Défense dans le cadre de ce qu'on appelle l'Africa Corps, a plutôt eu pour mandat de lutter contre les indépendantistes Touareg, justement.
C'est l'inverse.
Et c'est avec eux qu'elle s'est notamment beaucoup affrontée. La présence des Russes a permis la reprise très symbolique de la ville de Kidal, mais en revanche, une bataille extrêmement violente s'est produite, laissant morts sur le front des militaires de Maliens, bien sûr, mais aussi des membres du groupe Wagner, près d'une centaine.
Mais alors, est-ce qu'il reste encore un État avec de l'administration, une armée
Absolument, ouais. Il reste un État avec
une armée. Il reste une armée.
Non, c'est justement la difficulté et toute l'ambiguïté de la situation actuelle, c'est que les groupes djihadistes, donc il y a le JNIM dont nous parlons aujourd'hui, mais il y a aussi ce qui a été mentionné dans la chronique précédente, qui s'appelait le IGS, mais qui a été rebaptisé désormais État islamique Sahel, qui en effet cherche à s'imposer, mais qui n'y parviennent pas non plus, parce que les forces armées résistent. Et finalement, il y a une sorte d'État un peu archipel, avec d'un côté des zones rurales qui sont souvent aux mains de ces groupes djihadistes, mais en revanche, toutes les métropoles, et particulièrement la capitale, Bamako, qui reste sous le contrôle du gouvernement actuel et des forces armées.
Et vous, que savez-vous de la situation au Mali ? Pas grand-chose, hein. On se relâche un peu, question actualité internationale en cette fin d'année, j'ai l'impression. Heureusement, je vous ai envoyé Quentin, lui, qui vous expliquait ce qui se passait à Bamako. Alors Quentin, comment les passants ont-ils réagi ?
Ah bah, j'en ai eu des acronymes à faire lire oui. dans la rue, mais alors celui-ci, le je souffle. Je souffle, ça m'arrive. Mais c'est quand même le cœur vaillant que je pars affronter la rue, comme j'aime le dire. Première rencontre, ce jeune homme, costume gris, lunettes rectangulaires, casque audio vissé sur la tête. Allez, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Swell.
Swell, vous avez quel âge ?
28 ans. JNIM. Alors, j'ai pensé à un djinn, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est une coalition de groupes djihadistes qui opèrent surtout au Mali, au Burkina Faso et Niger. D'accord. Ah bah c'est pas okay. du tout, j'avais pas la bonne idée quoi.
Ouais ouais, c'était pas la bonne idée. Il réagit en découvrant le sujet à travers son téléphone.
Est-ce que c'est à nous de d'anticiper le terrorisme à distance ou sur place quoi ?
Ouais.
Mais la question étant, est-ce que c'est un truc anticipable ?
Et ça, c'est plutôt une bonne question de la part de Swell. Est-ce que c'est un truc anticipable ? J'arrête. Cette dame, maintenant, elle est retraitée et découvre le mot du jour dans Zoom Zoom Zen.
JNIM. Le JNIM, pour groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est une coalition de groupes islamistes...
Djihadistes,
pardon.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Bah, les attentats. L'Afrique a été quand même tellement... sucé de ses sols, de tout, que ça ne m'étonne pas en même temps qu'il y ait ce genre de regroupement contre cette mondialisation. Et puis bah voilà, hein, donc maintenant on en est là, hein, à force de ne pas faire attention, bah oui, il y a des groupuscules qui se créent.
Mais alors, est-ce que ça lui fait peur à elle ?
Je ne suis pas à un âge où ça peut m'effrayer plus que ça. Hier, je marchais dans la rue vers Ballard, il y avait un mec qui était en train de gueuler après Allah. J'y ai pensé en me disant, bah tiens, je pourrais peut-être être poignardé par hasard au détour d'un chemin. Puis je me suis dit, bah voilà, Inch'Allah, comme on dit.
Ce monsieur, maintenant, il dévore un sandwich dans la rue. Connaît-il le...
Ah, le JNIM, le JNI. Alors ça, je ne connais pas du tout. À l'islam et aux musulmans, une coalition de groupes. Et puis il y a Al-Qaïda, voilà.
Nous parlons d'une intervention militaire. Est-ce que c'est à la France d'aller sur place ?
Mais ils les ont virés, non, du Mali, les... hein ? Et donc, ouais, elle ne pourra plus intervenir là-bas. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Envoyer les soldats français, encore une fois, se faire tuer là-bas ? Et moi, je suis contre, hein, l'islam. On va être envahi. Ils vont débarquer en France, c'est sûr.
Forcément, on mélange islam, religion, terrorisme. Je décide de me rendre près d'une mosquée à Paris. J'attrape au vol Yannick, 58 ans. Quel est son avis à lui ?
Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je lis le JNIM. Moi, j'ai un regard assez, je dirais, neutre, pas exalté en tout cas par rapport à tout ce que l'on peut entendre ou voir parfois sur certaines chaînes d'information. Voilà, je pense que c'est plutôt à la communauté liée à l'islam qui doit s'auto-réguler, se régenter. Ils sont parfaitement au courant, vous avez une mosquée derrière vous, c'est à ces gens-là de distinguer éventuellement les fauteurs de troubles, ceux qui vont au-delà de la simple, le simple exercice de, d'une religion.
Ma dernière rencontre, c'est Kenza, chevelure au vent, bloquée dans un casque audio, la quarantaine. Je lui fais découvrir le jnim.
Pas le jnim, parce que...
Ben non, je lui fais découvrir le jnim, et nous parlons de ce que le terrorisme a aussi provoqué dans notre pays.
Bah écoutez, l'amalgame, moi je pense moi-même concernée, donc c'est un peu triste, quoi.
Vous êtes concernée, vous ?
Oui.
Ouais.
Je suis d'origine marocaine. De petites choses, mais qui s'accentuent. Moi, j'ai vraiment ressenti une accélération, enfin, vraiment une montée de méfiance. J'en suis à expliquer que ça n'a rien à voir, c'est quand même grave, quoi.
Elle en est presque à guetter l'actualité, et cette apparition du jnim, pour elle, ne va rien changer.
Chaque petit truc qui arrive, toute personne concernée, de loin ou de près, comme moi, qu'un prénom, un nom, des origines, des croyances, peu importe, on prie hyper fort, c'est-à-dire oh, j'espère que c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe quelle attaque, on se dit oh, j'espère que ça va pas être un arabe ou quelqu'un d'origine arabe ou musulmane, donc voilà.
Bon, bah c'est moi qui vous aurais fait découvrir le jnim.
Ben oui, j'avais pas encore entendu ça, encore un nouveau truc sympa à suivre.
Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai vertige, sentir qu'un nouvel ennemi lointain entre dans nos vies. Le jnim, aujourd'hui, comme Al-Qaïda et Daesh hier, un nom qui commence dans un micro-trottoir, mais qui pourrait finir un jour en bandeau rouge sur nos écrans. Et c'est là que la responsabilité commence, expliquer avant que ça n'effraie, nommer avant que ça ne déborde, parce qu'un acronyme qu'on comprend, eh bien c'est déjà un pas de moins vers l'amalgame.
Merci Quentin Negale Bagayoko. Est-ce que justement le jnim pourrait effectivement devenir un nouvel Al-Qaïda, un nouveau Daesh à l'international, ou c'est pas du tout la nature de ce groupe-là ?
Alors, un nouvel Al-Qaïda, c'est une branche,
oui, c'est une branche d'Al-Qaïda.
Mais
oui, oui.
C'est important de le souligner parce qu'à mon avis, c'est une affiliation encombrante pour le mouvement lui-même, okay, qui, de manière très claire, a toujours indiqué, à travers ses communiqués, qu'il ne visait pas la France ni l'Europe, mais qu'il visait le gouvernement du Mali et ses alliés présents sur le sol malien, qu'il s'agisse de la France, bien sûr, mais aussi des Nations Unies, contre lesquelles beaucoup d'attaques ont été perpétrées par le jnim, et enfin, les troupes russes et turques aussi, parce qu'il y a aussi des prestataires de sécurité privée originaires de Turquie, ce sont eux qui sont perçus comme les ennemis, mais absolument pas le territoire français, notamment, il n'est pas visé. Et aujourd'hui, dans la perspective de ce qui pourrait se produire, il est possible que le jnim, puisque son ambition est nationale, se départisse de cette affiliation à Al-Qaïda. Justement, okay. On a d'autres exemples, hein. Vous voyez ce qui se produit avec la Syrie, avec Ahmed Al-Shara. On est dans des dynamiques qui ne sont pas comparables, bien sûr, parce qu'il y a une très forte spécificité de djihad sahélien, mais ce n'est pas à exclure.
Mais si leur but n'est pas de devenir international, ce que vous venez de nous dire, c'est quoi leur but du coup au jnim ?
Ben, leur but, c'est d'instaurer une vision ultra rigoriste de la charia sur le territoire malien, si possible au-delà, mais il n'y a pas une vision de type califal comme on peut l'avoir du côté de l'État islamique qui combat de manière acharnée, hein. D'ailleurs, le jnim, c'est très important de le souligner. L'objectif, c'est plutôt de favoriser la préservation de l'unité, de la souveraineté du Mali, mais avec cette application d'une vision extrêmement conservatrice de l'islam. Et c'est sans doute pour cela que le blocus, hein, auquel il a été fait allusion, le blocus sur le carburant qui est utilisé au niveau tactique aujourd'hui de manière assez efficace, a pour objectif d'étouffer Bamako et peut-être de faire tomber le régime, mais certainement pas de prendre le pouvoir par les armes, parce que le mouvement n'en a pas la capacité aujourd'hui. J'ajouterai enfin que c'est un mouvement qui se présente comme protecteur des populations civiles par opposition à l'État islamique et une approche beaucoup plus sanglante et violente, notamment de son combat.
Parler de l'aspect religieux, j'étais devant une mosquée pour parler avec des gens de ce groupe djihadiste. Est-ce que les mosquées ont un rôle à jouer pour expliquer ce qui se passe sur place.
Alors, les mosquées, ça dépend lesquelles. Moi, je ne suis pas sûre que la situation au Mali soit la priorité de l'islam en France. Mais en tout cas, dans l'espace sahélien, il est évident qu'il y a un cas qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est le cas de la Mauritanie, qui, alors qu'elle était la terre, l'une des terres principales d'enlèvement, notamment d'otages occidentaux, a choisi une approche multidimensionnelle, bien sûr en renforçant ses moyens militaires, notamment le long de la frontière, mais a aussi engagé un dialogue intra-religieux entre les différents courants de l'islam, des plus modérés jusqu'aux plus extrémistes, à travers la mobilisation de ce qu'on appelle les docteurs de la loi islamique, à savoir les oulémas. Donc, en effet, les autorités religieuses ont un rôle à jouer et la question de l'islam salafiste non violent sera sans doute au cœur de la solution qui sera trouvée politiquement au Mali.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Notre sujet du jour, le djihadisme au Mali étant difficile à traiter sous l'angle de l'humour, décision a été prise que le quiz porterait aujourd'hui plutôt sur les putschs militaires et coups d'État ratés à travers l'histoire. Le plus foireux étant évidemment celui de Quentin, en juillet dernier, quand il a voulu forcer la porte du bureau d'Adèle Van Rett, notre directrice, pour essayer de s'approprier la revue de presse de la matinale. Tentative de putsch qui s'est heurtée au fait que Quentin, du haut de ses 53 kilos, n'avait pas la force nécessaire pour techniquement forcer la porte. Adèle a juste cru que c'était une souris qui grattait et elle a appelé Nora Hammadi pour lui confier la revue de presse. Jouons au Zoom Zoom Test.
53 kilos. Allez, je
prends. Oui, vous êtes gentil.
Ça va, Manon. Je sais pas où vous allez, mais...
Un quiz spécial putsch et autres coups d'État qui ont connu une fin aussi impromptue que le Zoom Zoom Zinc. Et pour cette première question, direction un pays qui me tient à cœur. Car j'ai toujours eu pour mes vacances des goûts simples, en adéquation avec mes moyens financiers d'intermittent du spectacle, en contrat de saison, les Seychelles. À 13 heures d'avion de la France, car hélas, oui, vous le savez, depuis 2016, il n'y a plus de vol direct, on est obligé de faire escale à Dubaï,
oui,
heureusement que
le
large business n'est pas dégueu. Oh. Au cœur de l'océan Indien, cet archipel c'est propose des plages de sable fin émaillé de guest house, charme convivial niché sous les palmes des cocotiers, un paradis indépendant mais convoité. Ainsi, en 1989, c'est l'Afrique du Sud qui tenta de renverser le régime en place aux Seychelles, une opération qui ne sera pas allée bien loin parce que les mercenaires se sont fait refouler à la douane tellement ils étaient bourrés. La calache dans la valise, ça passe pas la sécu. Où quelqu'un à l'état-major sud-africain a merdé dans la résa et les mercenaires ont atterri non pas aux Seychelles, mais aux Maldives.
C'est ça serait drôle.
Ça peut être plusieurs ou pas là?
Oh,
non,
on
mais
dit
Quentin,
pas.
Ne cherchez pas. Les...
B et C.
Midi à 14h. B et C, non. Manon?
C, j'ai dit.
Ils sont arrivés aux Maldives?
Oui,
oui, c'est ça.
C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était évidemment la B. C'est grâce, écoutez bien, à la vigilance de Cyril Lacarrière, alors responsable du portique de sécurité de l'aéroport international de Mahé aux Seychelles, que le coup d'État avait pu être évité. Ça a fait bip, du coup, contrôle des bagages à l'intérieur des fusils d'assaut. Résultat, pas d'assaut, confiscation des joujoux et retour Fissa en Afrique du Sud pour les mercenaires de la loose. Mais pas le temps de se prélasser dans l'infinite pool du Four Seasons de Pralin, où on est toujours si bien reçu. J'embrasse la direction. Direction maintenant la Zambie. Je plaisante les amis,
oui,
je
jamais aller à Pralin.
Direction maintenant la Zambie en Afrique australe. Là, je ne peux pas vous dire à combien d'heures de vol c'est de la France, je n'y suis jamais allé. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'en 1997, le capitaine Steven Lungu débarque dans les studios de la ZNBC, la NBC namibienne, si vous voulez, zambienne, pardon, si on veut. Et là, il prend le micro et annonce qu'un coup d'État vient d'avoir lieu et que le président doit immédiatement démissionner. Selon vous, Manon, Quentin, que va-t-il se passer? Il va faire un arrêt cardiaque pendant la dernière phrase de son allocution, fin du coup d'État.
Oui.
Il va se perdre dans ses fiches et se tromper dans le nom de son mouvement politique. Ou il va être si peu crédible que les journalistes en studio, au lieu d'avoir peur, vont éclater de rire.
Oh là,
ah, c'est dur.
B, je dirais B.
J'ai envie de dire A parce que ça me fait rire.
Et il est mort d'un arrêt cardiaque. La mort d'un homme, quel qu'il soit, même un putschiste.
Non,
ça vous fait rire, ça en dit long sur vous.
À la fin du discours, quoi, c'est...
Eh bien non,
c'est cocasse.
C'était la réponse. C'est... Vous n'en mettez pas une dedans aujourd'hui. Ouais. Effectivement, effectivement.
Avec YouTube, mais...
Pauvre capitaine Lungu, qui a donc vécu peu ou prou la même chose que Quentin, lorsqu'enfin il avait réussi, en se faufilant dans une salle de réunion, à proposer sa candidature pour la revue de presse de la matinale à l'équipe de la direction de France Inter. Des rires qui hantent encore Quentin et le capitaine Steven Lungu, qui n'avait en fait que 50 hommes avec lui. Or, 50 hommes, n'importe quel stratège vous le dira, c'est trop peu pour un coup d'État, même en Zambie. Coup d'État qui n'aura duré que 3 heures en tout. Le putsch suivant a duré beaucoup plus longtemps, le double. Cette fois, nous sommes au Kenya, là où Cyril a de si beaux souvenirs de chasse au lion. Kenya qui connaît en 1982 une tentative de coup d'État qui va échouer avec beaucoup de panache. Un officier de l'armée de l'air tente de renverser le président Daniel Moi. Non, pas moi, lui. Bref, selon vous, pourquoi
ça
moi
ça le fait rire.
Pourquoi moi est resté en place? Parce que les rebelles ont eu...
C'est moi, hein.
Oui, c'est pour ça que ça ne marche pas, cette blague. Mais ça, c'est une... effectivement, c'est une blague qui ne fonctionne pas. Elle fonctionnait à l'écrit. Il faudrait faire une édition écrite du Zoom Zoom Test. Peut-être un coffret pour Noël. Le Zoom Zoom Test, et on pourrait, peut-être en association avec Hasbro, une bonne idée.
Daniel Moy.
Alors, que s'est-il passé pour Daniel Moy? Comment il a fait pour rester au pouvoir? Les rebelles ont fait une marianoche. Ils sont allés picoler au lieu d'arrêter le président et ses ministres. Les soldats ont fait une Quentin. Ils ont trahi leur camp et se sont ralliés au pouvoir en place. Ou les soldats ont fait une courade. Ils ont tellement pris la tête à leur chef. Ce dernier a lâché l'affaire.
Ah !
Vous avez triché, je vous ai vu.
Ben non.
Si. Ah.
Ben, je crois pas.
Mais oui, si.
C'est peut-être pas la seule réponse.
Quentin, vous avez eu un regard sur ma feuille.
Oui, absolument pas.
Et vous avez dit ah. Vous perdez donc 2 points. C'était la réponse.
J'en ai pas gagné un seul.
C'était la réponse. Vous êtes à moins 2. Facétieux rebelles kényans qui ont donc crié victoire avant d'avoir mené le combat. Ezekiah Ochuka, l'officier de l'armée de l'air à la tête du putsch manqué et qui a ensuite fui en Tanzanie, prétendra avoir dirigé le pays pendant 6 heures. À jeun, on aurait peut-être tenu même 12, aurait déclaré notre champion en exil. Et pour finir en beauté, direction le Venezuela. À sa tête, l'idole de Cyril qui s'inspire de ses méthodes de management dans notre open space, Nicolas Maduro. En 2020, c'est l'opération Gideon, un groupe de mercenaires colombien débarque sur les côtes vénézuéliennes pour renverser le dictateur. Seulement voilà, l'opération est annoncée dans la presse vénézuélienne avant même le départ des bateaux. Les commandos débarquent par erreur sur une plage où il y a des villages vacances pour la police et se font éclater par des types en maillot.
Non.
Où seuls 10 mercenaires savaient nager dans le commando. Résultat, 28 noyés en sautant du Zodiac pour nager jusqu'à la côte.
Si.
Ah. Ça serait la belle histoire quand on a du cœur comme vous, Manon.
Ah.
C'était effectivement la réponse à Quentin. Heureusement, le président Maduro, qui est amazing et fait un incredible job, est toujours aux commandes de ce beau pays qu'est le Venezuela. Et c'est une victoire inédite de 0 à moins 1 de Manon Mariani. C'est dire le niveau de cette émission où un présentateur a quand même appelé Daniel Moy, Daniel Moi. Simplement en mal-lisant. Je ne sais pas si tout ça est digne du service public.
J'ai jamais tenté un coup d'état pour la revue de presse de la matinale. Alors ça, vous aurez quitté sinon. Vous avez été triste.
Vous me planterez un couteau dans le dos le jour où vous en aurez l'occasion, je le sais, Quentin.
Ah bon, demandez à mes anciens supérieurs.
Faut-il avoir peur du JNIM? La spécialiste de la défense en Afrique, Niagale Bagayoko, est toujours avec nous pour comprendre ce qu'est le groupe djihadiste JNIM qui menace donc de prendre le pouvoir au Mali. Et il faut dire pour un peu dézoomer, ça représente combien d'hommes ce JNIM? Ils ont à peine de quoi prendre Bamako, et encore c'est pas sûr, c'est assez petit finalement.
Donc, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas les moyens de prendre Bamako. On estime à 5 à 8 000 hommes sans doute, combattants actifs, mais il faut à mon avis raisonner au-delà d'un aspect purement quantitatif. Ce qui est important, c'est aussi le type de gouvernance qu'ils ont été en mesure d'instaurer, d'imposer dans les zones périphériques sous leur contrôle, dans le nord du Mali, puis progressivement dans le centre, qui est devenu l'épicentre véritablement de la crise sahélienne, dans le sud, et puis dans le nord, l'est du Burkina Faso, l'ouest du Niger, et aussi dans la partie septentrionale des pays côtiers. Ils y instaurent une gouvernance fondée sur le droit, beaucoup, sur l'administration de la justice.
Mais une justice placée sous la loi de la charia, non?
Évidemment. Oui. Fondée sur la charia, mais dans un système étatique où il y a une grande défiance envers les représentants de l'État, envers les lenteurs notamment administratives. C'est un mode d'intervention expéditif qui trouve un certain nombre d'adeptes. Ils se sont aussi beaucoup impliqués dans la gestion des ressources naturelles les plus essentielles à la survie quotidienne, à savoir l'accès aux terres, l'accès aux pâturages, pour administrer les conflits communautaires qui pouvaient intervenir de manière séculaire. Il s'impose aussi une sorte d'impôt islamique qui s'appelle la zakat, ce qui leur permet aussi
de se financer.
Ils imposent aussi des contrôles routiers en imposant des taxes sur le terrain. Donc c'est difficile de les considérer uniquement au travers de leurs effectifs combattants. Il y a aussi des administrateurs qui, bien sûr, font partie du mouvement. Il y a aussi des personnes chargées purement et simplement de la communication, par exemple, qui est assez efficace et assez redoutable. Donc, voilà, à mon avis, il faut regarder les ressources humaines dont dispose le mouvement au-delà des seuls effectifs présents pour combattre sur le terrain.
Quentin. Vous dites, Niagale Bagayoko, que partout dans le monde, les groupes armés sont toujours parvenus à leur leur fin après avoir mené des guérillas de longue haleine.
Oui, partout et depuis longtemps.
Vous n'êtes donc pas super optimiste pour le Mali, là ?
Alors, moi, je ne suis pas optimiste pour le Mali, qui, de toute façon, est dans une situation d'ores et déjà extrêmement difficile et qui n'a cessé d'empirer, en réalité, hein, depuis le début des années 2010. Cela, évidemment, ajouterait à cette situation qui est particulièrement difficile pour les populations, c'est à elles hein, qu'il faut penser avant tout. Mais à mon avis, on s'achemine sans doute plutôt vers un scénario négocié, parce que si aucun mouvement n'a jamais réussi à être défait, c'est parce que des négociations, finalement, sont toujours intervenues. On se rappelle de ce qui s'est passé avec les talibans, qui effectivement ont fini par prendre la capitale, mais il y a eu aussi ces négociations à Doha entre les États-Unis et les talibans. Donc, comment penser qu'un État comme le Mali va réussir à résister ? Non. Moi, je pense qu'on s'achemine vers un scénario de sortie de crise négocié qui aboutirait à la mise en place d'un régime à la fois militaire avec des composantes de l'armée actuelle ou d'autres, avec une composante islamiste. N'oublions pas la frange pacifiste extrêmement rigoriste de l'islam, et aussi un front ultra-nationaliste, parce que c'est aussi une vague politique extrêmement puissante au Mali comme ailleurs. Le souverainisme, le nationalisme sont la force politique la plus puissante aussi dans le pays. Il n'y a pas que l'islamisme.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un homme aujourd'hui, Yevgeny Prigojine, l'un des oligarques russes les plus controversés de ces dernières années. Au début des années 80, il est condamné pour vol, escroquerie, vol avec violence et passe près de 10 ans dans une prison soviétique. Une fois libéré, il commence par vendre des hot-dogs dans un marché de Saint-Pétersbourg, puis entre dans la grande distribution et la restauration. Il ouvre des restaurants fréquentés par les élites locales avant de décrocher des contrats de catering avec l'État jusqu'au Kremlin. C'est à ce moment là qu'il hérite de son surnom, le cuisinier de Poutine, car il fournit les repas au pouvoir russe. Au début des années 2010, son nom est associé au groupe Wagner, une société militaire privée dont on a parlé et dont il est la figure de proue. Wagner est engagé en Syrie, en Libye, en Centrafrique et donc au Mali, officiellement pour soutenir des régimes alliés et officieusement surtout pour sécuriser des intérêts stratégiques et économiques, notamment des mines et des sites pétroliers. Plusieurs rapports de l'ONU accusent les hommes de Wagner de graves violations des droits humains, dont des exécutions et des massacres de civils, notamment au Centrafrique et au Mali. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, Yevgeny Prigojine sort de l'ombre. Wagner joue un rôle majeur dans la bataille de Bakhmout. Il affirme que 20 000 de ses mercenaires sont tués et que c'est en grande partie la faute du ministère, au ministère de la Défense russe, qui ne leur a pas donné assez d'armes. Dans une vidéo qui est devenue virale, il les accuse d'incompétence, de corruption et de mentir sur leurs pertes. En juin 2023, il rompt avec le pouvoir russe en refusant de signer un contrat avec ce même ministère, le ministère de la Défense. Pour lui, ça signifie perdre l'autonomie de Wagner. Et puis, quelques jours plus tard, il accuse l'armée russe d'avoir bombardé un camp de Wagner. Dans la foulée, il organise une rébellion. Ses hommes prennent le contrôle de sites militaires russes, puis ils lancent un convoi qui remonte vers Moscou. Cette mutinerie dure moins de 24 heures grâce à une médiation avec le président biélorusse. La milice de Wagner fait demi-tour. Mais deux mois plus tard, un jet privé qui relie Moscou à Saint-Pétersbourg s'écrase. À bord, 10 personnes, dont Yevgeny Prigojine et plusieurs cadres de Wagner. Aucun survivant. Les autorités russes confirment sa mort après des analyses ADN. Officiellement, une enquête est ouverte pour violation des règles de sécurité aérienne, mais la Russie refuse une enquête internationale et de nombreux services de renseignement occidentaux estiment qu'il s'agit d'un assassinat commandité. Pour eux, Poutine a voulu montrer son autorité en se vengeant de son ancien ami. Comme dirait l'autre, sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis.
J'ai froid dans le dos quand vous regardez comme ça, Manon. Je ne sais pas quel message que vous m'envoyez.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Des Touaregs, moi j'en ai rencontré une fois lors d'un séjour QNI au Burkina. Ils étaient très sympas, ils nous ont même offert du thé vert et à la fin on a pu leur acheter des poteries. 50 euros les trois, c'était une super affaire. Nous racontait Pierre Courade en préparant cette émission qui a dû changer son regard sur les Touaregs. Pierre, oui. Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur le mouvement JNIM en une minute chrono.
Le JNIM, c'est l'acronyme de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une organisation terroriste active actuellement au Mali et qui menace sa capitale, Bamako. Pour en parler avec nous, la spécialiste de la défense en Afrique, Niagale Bagayoko, elle nous a expliqué que le JNIM était affilié à Al-Qaïda. Il est composé de différents mouvements locaux enracinés dans le territoire et ancrés dans l'histoire malienne. C'est ce qui fait sa force. Son chef, Iyad Adgali, est issu d'un mouvement rebelle Touareg. Il est un ancien haut fonctionnaire et a participé à l'offensive composite de 2012-2013 qui a entraîné l'intervention française au Mali. Aujourd'hui, c'est sous la bannière commune du JNIM qu'il combat une coalition qui s'oppose à la junte militaire actuellement au pouvoir. En même temps, notre invité nous a rappelé que tous ces groupes avaient aussi auparavant combattu le précédent pouvoir. L'objectif du JNIM est d'unifier le Mali et d'imposer une vision rigoriste de la charia. Pour y parvenir, il affronte les alliés du régime malien, mais aussi les troupes russes et les mercenaires turcs présents dans le pays. Il asphyxie en ce moment Bamako, la capitale, en lui imposant un blocus, une stratégie qui lui permet de pallier la faiblesse de ses effectifs. Voilà Mathieu, en quelques mots, ce qu'on peut dire sur la situation actuelle.
Merci Pierre, c'était très bon et malgré tout, c'était le plus inutile de vos petits carnets, puisqu'il existe un petit carnet réalisé par notre invité, Niagale Bagayoko, que vous retrouvez sur TV5 Monde. Sa capsule, c'est une capsule sur notre mot du jour, le JNIM, dans l'émission Les mots de la paix.
C'est une excellente chaîne.
Voilà, excellent.
Merci beaucoup. Si je puis juste me permettre de préciser très rapidement quelque chose, il ne faut pas assimiler le JNIM aux Touaregs. Il y a des membres de toutes les communautés
ils sont pas,
du Mali
ils sont
et
pas
de la région.
Représentés.
Il y a des Galis mais... et d'origine Touareg, mais il y a des membres de toutes les communautés présentes dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est important de le préciser.
Voilà, on est complet. Lui, il pourrait largement incarner un symbole de paix au même titre que la colombe, tant son aura divine nous émerveille chaque mercredi. Il s'agit d'Harold.
Il y a 6 mois, j'ai dû faire des blagues sur les triades chinoises. Et en bonne mauviette que je suis, j'avais eu très peur pour ma vie après. Et aujourd'hui, c'est sur une variante d'Al-Qaïda. Alors pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Alors, si vous voulez vous débarrasser de moi, il y a des moyens beaucoup plus simples. Surtout, je suis un peu inquiet car on est sur France Inter et ça va se voir tout de suite que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas sur le bon média, c'est beaucoup trop sérieux ici. Alors que sur certaines chaînes d'information, le fait de porter une barbe telle que la mienne pourrait me valoir le titre de spécialiste du Moyen-Orient. Il y a toujours des spécialistes qui interviennent en plateau dans ces émissions-là. Tu les connais pas? Ils arrivent vêtus de leur plus beau costume Célio, fraîchement débarqués du train Limoges-Paris. Ils viennent nous expliquer plein de confiance ce qu'il faut faire pour résoudre les conflits dans ces pays-là. Alors que la veille, ils ont erré seuls dans leur salon pendant 30 minutes en pantoufles à chercher la zapette de la télé. Non, c'est quand même incroyable, j'avais dans la main il y a 5 minutes. Nadine! Même eux, ils sont surpris quand on les appelle. Allô? Allô, Lionel Pélican? Vous êtes bien spécialiste des infiltrations en milieu hostile? Bah, pas du tout, je travaille à la médiathèque de Cholet, moi. Mais on vous a bien posé une sonde de bite en avril dernier. Ah oui, oui, oui. Donc pour nous, vous avez le titre de spécialiste des infiltrations en milieu hostile. Oh, bah, ça me fait plaisir. Ah, ça, c'est vraiment chouette. Nadine, écoute ça! Après, Nadine l'emmène à la gare. Rends-nous fiers, mets-leur en plein la vue aux gens de la capitale. Attention à ta sonde de bite quand même, Lionel. Tout ça pour dire que je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous parler du JNIM, quoi. JNIM, une émanation d'Al-Qaïda qui établit un blocus au Mali. Face à eux, l'ONU a envoyé le MINUSMA. Franchement, il y a trop d'acronymes. Je répétais la chronique à haute voix hier, j'avais l'impression d'être chez l'ophtalmologue. Donc c'est la guerre avec tous les drames que ça peut engendrer, alors qu'au final, avec des blasts comme ça, je suis sûr que ça pouvait se régler avec un bon vieux concours de cheerleaders. Donne-moi un G, un N, un I et un M. Oh yeah! Ça marche, ouais. J'ai été surpris d'apprendre que les membres du JNIM ne sont pas des membres à temps plein. Ça va, ça vient. Tu viens au JNIM quand t'as envie. Un peu comme le foot en vétéran. C'est une licence loisir. T'as un groupe WhatsApp avec tes amis, les potes du JNIM. Et puis ça s'invite, ça fait des plans pour le week-end. Ludo, un petit JNIM dimanche matin? Oh mais y'en a marre du paddle. Ah, viens, on se fait un petit coup de JNIM là. Ça change, un petit JNIM et après je te paye ma tournée. Au lieu de ça, c'est la guerre. Alors heureusement, pour maintenir la paix dans le monde, l'ONU a sa propre armée, les casques bleus. Alors avec un nom pareil, on pouvait déjà penser que pour le maintien de la paix, c'était mal parti. Casques bleus, même les chaussettes noires d'Eddie Mitchell, c'est plus impressionnant. Les casques bleus, c'est un peu l'équivalent des mecs de Securitas à Intermarché. Ils sont là pour maintenir la paix et la sécurité, mais au final, bon, Ça n'impressionne pas grand monde. Non, c'est vrai, ils font peur à personne. On n'a jamais vu des milices en panique. Arrêtez aux conneries, les gars, il y a les casques bleus, là. Mais bon, ça, c'est encore un sujet que je maîtrise pas.
Visiblement, oui.
Dans ce qu'il nous faudrait pour nous parler des casques bleus, c'est un spécialiste. Et j'ai un voisin qui grimpe sur les poteaux électriques pour Enedis. Vous voulez, je l'appelle.
Faites donc ça. Merci, Harold Barbet. Et on vous retrouve évidemment en spectacle jeudi à La Rochelle, vendredi et samedi à Cholet, justement. Ah. Et la semaine prochaine, Ali Lionel pourra venir vous voir. Et ici même, la semaine prochaine, dans Zoom Zoom. Merci, Niagale Bagayoko, de nous avoir éclairé sur le JNIM. Et je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous. Zoom Zoom Zen.